L'invité.
Début novembre, le Secours catholique a fait une synthèse de l'état de la pauvreté en France, en accent sur les préjugés et la cohésion sociale. Nous avons été à la rencontre de Pierre Keller, délégué du Rhône, et d'Omar, un jeune réfugié guinéen, en attente de titre de séjour, aidé par le Secours catholique. Pierre Keller, selon le Secours catholique, quel est le visage de la pauvreté en France aujourd'hui et tant que possible dans le Rhône ?
Le visage de la pauvreté, il est assez diversifié parce que il y a aussi bien des hommes seuls, des femmes seules, des mères célibataires, des familles, et notamment dans les grandes villes et en particulier à Lyon, une proportion de personnes d'origine étrangère, quelle que soit leur situation administrative.
Qu'est-ce qui change cette année dans la pauvreté par rapport à l'an dernier ?
Il n'y a pas beaucoup de changements. Ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est quand même d'une part l'augmentation de personnes étrangères déboutées ou sans papier, donc sans droit au travail, sans aucune prestation sociale, donc dans une situation d'extrême précarité, et néanmoins qui sont ici en France parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays. Donc ça, c'est quelque chose qui augmente et qui nous inquiète. Et c'est pour ça qu'on demande que des évolutions soient faites pour ces personnes qui ont fait des études en France et ils pourraient tout à fait contribuer à l'économie de notre pays. Ce qu'on constate aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est quand même un vieillissement de la population. Donc on a aussi des personnes âgées, isolées. Mais la figure de la précarité aujourd'hui, c'est beaucoup d'isolement social. Des personnes ou des familles qui vivent seules. Et ce qu'elles trouvent d'abord au Secours catholique, c'est de rencontrer d'autres. Au travers de ce retissage de liens sociaux, la capacité à reprendre davantage d'énergie pour faire face à leurs difficultés.
Alors aujourd'hui, le titre de la campagne que lance le Secours catholique, c'est « Qui croit encore que les démunis ont la belle vie ?» J'ai envie de demander, finalement, qui croit encore que les démunis ont la belle vie ?
On voit bien, on avait fait un sondage il y a quelques mois, et on voit bien que les Français savent bien que les démunis n'ont pas la belle vie, mais en même temps, ils sont un peu partagés. Et il y a, sur beaucoup de questions, 50% des personnes qui continuent à penser, ou 40%, que les pauvres sont des assistés, que les pauvres sont des fraudeurs, que les étrangers viennent là pour profiter du système de protection sociale. Ils le croient d'autant plus que certains hommes politiques importants, y compris dans notre région, répètent ce discours qui ne sont que des mensonges. Ce n'est pas la réalité que l'on constate au quotidien. Et donc ce n'est pas faire œuvre de cohésion sociale et servir, je dirais, le pays que de répéter ces préjugés, stigmatiser les pauvres, ce qui est une forme de double peine pour eux. Non seulement ils sont pauvres, mais en plus ils doivent se taire parce que c'est de leur faute. Ce qui évidemment n'est pas le cas.
Dans quelle mesure ça peut perturber le choix des décideurs, ce genre de préjugés ?
C'est-à-dire qu'ils prennent leurs décisions non pas sur la base d'éléments factuels, mais sur la base d'idées qui se colportent dans l'espace public, qui peut-être sont confortables pour certains qui ne veulent pas changer des choses, pas voir la réalité, mais qui ne sont pas la réalité. Par exemple, on nous parle beaucoup de fraude aux prestations sociales. Les fraudes aux prestations sociales, elles existent. Bien sûr qu'il faut la combattre. Peut-être c'est 600 ou 800 millions d'euros en France. À côté de ça, le ministère des Finances dit bien que la fraude fiscale, c'est 60 milliards d'euros. Voilà. C'est-à-dire 100 fois plus. Donc, où est le problème ?
Il ne faut pas se tromper de combat, finalement.
Et voilà. Et c'est quand même extrêmement grave d'être anesthésié par le fait qu'il y a aujourd'hui 9 millions de pauvres, c'est-à-dire de personnes qui vivent avec moins de 1035 euros par mois. Sur ces 9 millions, il y a 3 millions d'enfants. Et ça ne serait pas important, ça ne serait pas une belle mission de l'État et des collectivités que de lutter contre cette pauvreté, de permettre à toutes ces personnes d'accéder à un emploi, d'accéder à un logement, alors qu'il y a bien assez d'argent dans notre pays pour permettre cela.
Justement, question un peu politique, vous parliez des collectivités locales, de l'État, etc. On a un nouveau président depuis moins d'un an. Quel regard portez-vous sur l'action menée par le gouvernement ? Est-ce qu'elle est convenable selon vous ? On a beaucoup parlé des contrats aidés ou de la baisse des APL. Dans quel sens ça va pour vous ?
Écoutez, ce qu'on voit pour l'instant, les mesures qui ont été prises, qui ont été votées par le Parlement, sont des mesures qui sont clairement à l'avantage des plus riches. Et les mesures concernant certaines catégories, comme par exemple les handicapés ou les retraités, qui ont été annoncées, pour l'instant, sont des annonces qui vont s'étaler dans le temps, etc. Et concernant un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, par exemple, qui est le RSA, aujourd'hui RSA 400, 75 euros, comment voulez-vous vivre avec 475 euros ? Donc il n'y a aucune annonce, aucun projet là-dessus. Donc voilà, les pauvres n'ont pas le droit d'exister dans cette société.
L'action publique s'éloigne de son fondement original.
C'est ce qu'on souhaiterait mettre en avant aussi, c'est que la grandeur de l'action publique, c'est la citoyenneté pour tous, c'est l'accès aux droits pour tous. C'est ça la raison d'être de l'État, c'est ça la raison d'être des collectivités territoriales. Et on souhaiterait qu'on le perde un peu moins de vue.
On parlait des préjugés tout à l'heure. L'un des préjugés qui est répandu, c'est que si on cherche du travail, on trouve. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a que 1% des bénéficiaires du Secours catholique dans le Rhône qui sont en formation professionnelle. Comment vous l'expliquez ? Comment vous réagissez à ce tout petit chiffre ?
Aujourd'hui, on le sait bien, et là-dessus, il y a des annonces aussi qui ont été faites. Donc là, on espère beaucoup qu'il y aura une transformation profonde de la formation professionnelle. On veut être optimiste là-dessus, mais aujourd'hui, les sommes consacrées à la formation professionnelle en France ne vont pas aux plus pauvres. C'est clairement établi. C'est tout à fait dommageable. Je crois même qu'au niveau de la région Rhône-Alpes, on est conscient de ça et qu'on agit dans ce sens-là. Pour corriger ça.
Concrètement, il faudrait quoi aujourd'hui pour la formation professionnelle ? Donner plus de moyens ? Changer les critères d'attribution ?
Moi, je ne suis pas un expert de la formation professionnelle, mais clairement, il faut réorienter massivement les crédits vers les personnes en précarité, c'est-à-dire vers les personnes sans qualification. Après, on a aussi des éléments qu'on peut encourager, en particulier l'expérimentation Territoire zéro chômeur de grande pauvreté à Villeurbanne-Saint-Jean, qui propose en fait de partir des personnes, de leurs compétences, et en fonction de leurs compétences, leurs talents, regarder les emplois qu'on peut inventer et réorienter les prestations sociales que touchent ces personnes vers, au contraire, de l'argent actif, c'est-à-dire du salaire, pour qu'ils soient en activité. De la même façon, la réduction des emplois aidés, ça prive encore les personnes les plus éloignées de l'emploi de possibilités d'une dignité par le travail. Donc ça pose question.
On parle beaucoup de salaire, de travail, d'argent, mais finalement on se rend compte que les plus précaires, ce qu'ils demandent surtout, c'est de l'écoute. Pourquoi ? Quel regard vous portez là-dessus sur ce constat ?
En fait, ça m'impressionne beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes en précarité vivent vraiment dans une grande galère, mais ils sont d'une force, d'une ingéniosité, d'un courage pour avancer dans leur galère qui est incroyable, mais sauf qu'ils ont besoin de ne pas être tout seuls pour ça. Ils ont besoin d'être reliés à d'autres. Et donc cette demande d'écoute, d'accueil, d'accompagnement, elle est première parce qu'effectivement, c'est par le lien social qu'on reconstitue, je dirais, des forces personnelles pour affronter ces difficultés et pour se battre, pour trouver du travail, pour solliciter peut-être les allocations familiales auxquelles on a droit, mais qu'on est un peu fatigué d'aller réclamer ou des choses comme ça.
Finalement, il y a assez peu de bénéficiaires qui demandent leur allocation ?
Si, il y en a quand même une majorité, mais il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, c'est ce qu'on appelle le non-recours, n'ont pas recours au RSA alors qu'ils y ont droit, c'est aux alentours de 30 ou 40%, n'ont pas recours aux allocations familiales alors qu'elles y ont droit. C'est très surprenant et c'est des montants qui sont bien supérieurs aux montants de la fraude sociale dont on nous parle parfois.
Comment vous expliquez ces cas de non-recours ?
Il y a plusieurs causes. Il y a d'abord la complexité administrative parfois. C'est quand on est un peu écrasé par sa situation, aller faire des démarches vers une administration, c'est pas facile. C'est pour ça que nos bénévoles aussi dans les équipes, ils accompagnent les personnes pour ça, en lien avec bien sûr les services sociaux. Hein. Il y a aussi la honte de demander, et il ne faut pas croire que les pauvres sont justement désassistés. Beaucoup n'osent pas demander ce à quoi ils ont droit parce qu'ils ont la honte à force qu'on leur répète qu'ils sont désassistés. Il y a aussi une difficulté d'information, et puis il y a aussi pour une part un peu des accidents de la vie qui fait qu'à un moment donné, notre situation a changé, un droit s'est peut-être ouvert, mais on n'a pas pris conscience qu'on pouvait le solliciter.
Je voudrais revenir aussi un petit peu quand même sur la question des préjugés. Comment est-ce que vous expliquez, vous, qu'aujourd'hui, ces préjugés sont aussi ancrés dans l'esprit des Français ?
Ce que disent certains hommes politiques dans les médias, je pense que c'est parce qu'on ne se rencontre pas assez. On parle de personnes, de situations qu'en fait on ne vit pas, sans avoir fait l'effort de rencontrer les personnes. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut proposer dans nos associations. C'est vraiment la possibilité de rencontrer des personnes qui vivent des situations difficiles et de mieux comprendre ce qui leur arrive. Moi, j'étais dans un autre registre, très heureux. Il y a eu, il y a 2 ans, un appel du pape suite, je ne sais pas si vous vous souvenez, au petit Dylan qui était sur la plage, etc., pour accueillir des migrants dans toutes les églises, toutes les paroisses. Et bien, ça s'est fait ici à Lyon. Il y a plus de 60 paroisses qui accueillent actuellement 120 familles. Derrière ces 120 familles, en fait, à chaque fois, vous avez un groupe de bénévoles. Donc, vous avez probablement 1000 personnes qui se sont mises en marche et qui ont rencontré au moins une famille qu'ils accompagnent dans la durée. Alors, c'est pas facile, hein, tout n'est pas facile. Mais pour ces 1000 personnes-là, ou peut-être 2000, j'en sais rien, on n'a pas compté, c'est une autre approche, une autre compréhension de la réalité de la situation des personnes. Et beaucoup des idées qu'ils pouvaient avoir avant évoluent parce qu'ils voient la réalité. Donc pour moi, vraiment, cette question des préjugés, c'est une question de peur, parce qu'on ne rencontre pas les personnes et après parce qu'on fait des amalgames. Par exemple, la question du terrorisme n'a aucun lien avec la migration actuelle. Elle a peut-être des liens avec des migrations anciennes et des générations et des quartiers, mais elle a plus de liens avec la politique de la ville qu'on a menée sur ces 30 dernières années qu'avec les migrations de ces années-ci. Donc voilà, on fait des amalgames et au lieu de développer le vivre ensemble. Donc nous, on insiste beaucoup sur cette rencontre, sur ces liens, sur ce travail interculturel et même interreligieux. Voilà.
Merci Pierre Keller. On rappelle que vous êtes délégué du Rhône du Secours catholique. Omar, vous avez 23 ans et demi, vous êtes à Lyon depuis 2013. Vous avez fui la Guinée pour des raisons ethniques et vous êtes en demande de titre de séjour. Comment êtes-vous arrivé en France? Quel a été votre parcours jusqu'ici?
Quand j'ai eu des problèmes, c'est des trucs que j'aime pas rentrer en profondeur. J'ai trouvé un passeur pour venir ici, quoi, en France. Quand je suis venu en France, je dormais au dehors. J'ai passé 6 mois, je dormais dans le froid, et qui n'était pas chose facile. Et j'ai squatté, je crois que c'était à Villeurbanne, oui. Donc du coup, je suis resté là-bas un petit peu. J'étais dans le stress, j'avais des cauchemars, je dormais pas. Et heureusement, quand j'ai demandé l'asile, c'est la préfecture qui m'a envoyé au forum. Après le forum, ils m'ont envoyé au Secours catholique. Donc, du coup, quand je suis venu au Secours catholique, je me suis intégré. Et je faisais beaucoup de projets avec eux. C'est-à-dire, c'est des projets de dessin, d'animation, de randonnée et de foot aussi. Le Secours catholique m'a aidé sur le plan administratif à faire mes démarches.
Alors vous avez pu passer ici en France un CAP qui peut notamment vous permettre de devenir tourneur fraiseur. Pourquoi est-ce que finalement vous avez voulu passer un diplôme? Vous avez même voulu aller plus loin en faisant un bac pro, ça n'a pas été possible pour des questions administratives. Pourquoi avoir choisi peut-être aussi ce CAP? Comment ça s'est passé?
J'ai choisi le CAP parce que chez moi en Guinée, je travaillais dans les télécommunications. Donc du coup, je m'ennuyais bien avant que je faisais des projets avec le Secours catholique. Mais je trouvais que c'était encore ennuyant de rester sans rien faire. Et au lieu de se mettre à marcher de gauche à droite, c'est bien important de faire des choses avec le Secours catholique. Mais le métier, c'est important aussi pour la vie de l'homme. C'est pourquoi je me suis intégré dans la mécanique. Comme j'aime bien faire les choses avec les mains, je suis resté dans la mécanique. Et après, j'ai été débouté. Mais bien avant ça, je faisais le basket aussi. Après le basket, j'avais un club de basket à Bron. Je m'entraînais là-bas et j'avais la licence. J'habitais un foyer à Givors en plus. Donc du coup, ce n'était pas facile pour moi. J'ai suivi ma formation jusqu'à ce que, quand j'ai été débouté, donc du coup, j'ai perdu tous mes droits et j'étais découragé. Même étant débouté, je pouvais continuer mon bac pro. Mais j'ai jugé nécessaire de m'arrêter en ce moment, de faire une pause parce que c'est difficile de vivre, on n'a rien quoi. Donc il aurait fallu que je me batte pour avoir un peu de sous et de quoi vivre, quoi. C'est ça.
Vous avez été en tout cas aidé par une famille qui vous a hébergé, qui vous a soutenu. C'est le Secours catholique qui vous a trouvé cette famille, comment ça s'est passé?
Bon, oui, je peux dire que c'est le Secours catholique qui a été la base de tout pour moi. Et le Secours catholique, c'est un truc qui est important pour moi. C'est par le biais du GRS, parce que le Secours catholique travaille en liaison avec le GRS. Donc c'est eux qui m'ont aidé à trouver cette famille. Parce que bien avant d'aller au foyer, le but c'est de trouver les familles aux demandeurs d'asile et faire le tour de chaque famille. Chaque un mois vous changez, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, bien avant d'aller au foyer, j'étais là avec des familles. J'ai fait plus de 2 familles comme ça. Après je suis allé au foyer. Et quand j'ai été refusé, il y a la deuxième famille qui m'a réclamé. Parce que le monsieur, et c'est un bon monsieur que je respecte beaucoup. Et puis en plus, il était un peu malade. Il aimait bien mon attitude, mon comportement. Donc je suis venu chez lui, je suis resté avec lui. Jusqu'à présent, j'habite chez lui.
Ça vous a aidé à retrouver peut-être un peu de dignité, à vous retrouver
oui, oui.
Aimé presque, j'ai envie de dire.
Oui, ça m'a donné un peu de confiance en moi. et je me sentais à l'aise. C'était mieux de rester là-bas que de dormir au dehors. Du coup, c'était une bonne chose pour moi. Et je continue toujours avec eux. Pendant les vacances, ils m'invitent, je vais. Je passe mes vacances avec eux. Ils sont gentils, ils sont généreux et ils me soutiennent bien.
Vous avez participé au week-end à Thésée, donc c'était cet été, si je ne dis pas de bêtises, un week-end interreligieux. Qu'est-ce que vous y avez appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Oui, à Thésée, ça m'a apporté beaucoup de découvertes parce que c'était une vie en symbiose. Ça prouvait que les religions pouvaient vivre ensemble. Que tu sois musulman ou non musulman, tu sois chrétien ou tu sois protestant ou athée. Le symbole, c'était de montrer aux gens que la vie interculturelle ou interreligieuse est bien possible en France. Ça a donné beaucoup de choses aussi sur le plan des amalgames qui se font actuellement. Ça expliquait beaucoup de choses. Et les gens, du coup, ils étaient contents. Parce que les musulmans, ils allaient dans la mosquée, on priait ensemble. Et nous aussi, on partait dans l'église, on priait ensemble. Et on se donnait des explications. Et pour le bien-être de tous, quoi.
Vous parlez d'amalgames, ces amalgames, ces préjugés, vous les avez vécus, ils vous ont touchés?
Oui, oui. Moi, je l'ai toujours vécu. Dans les métros, je l'ai vécu. Un peu aussi pendant que je faisais ma formation, je l'ai vécu aussi. Partout, je peux dire, même quand je marche dans la rue aussi, des fois, et je l'ai vécu ça aussi. J'ai vécu ça aussi pendant que je faisais mes démarches aussi, quoi. Ça se manifeste par... Des fois, c'est par les attitudes, des fois, c'est par les paroles, tu vois. C'est un peu ça, quoi.
Cela dit, vous avez quand même de l'espérance, puisque je crois que vous allez travailler pour Emmaüs, vous allez pouvoir avoir un petit logement, une petite chambre pour vous. L'avenir s'ouvre un petit peu, quand même, pour vous?
Oui, oui, ça s'ouvre un petit peu. Ça me donne de l'espoir de continuer à vivre, à faire des choses bien. Et pour moi et pour la communauté et pour tout le monde aussi.
Quels sont vos projets d'avenir pour demain, après-demain?
Bon, mes projets, c'est toujours continuer à faire des belles choses pour l'humanisme parce que c'est une chose que je tiens vraiment à le faire, comme je l'ai toujours fait. Et après, peut-être que je me lancerai dans le sport ou dans la musique parce que j'aime bien aussi. Mais tout ce qui peut aider les êtres humains, je préfère m'engager dans ça aussi.
Merci Omar. On rappelle que vous êtes un réfugié guinéen en attente de titre de séjour, aidé par le Secours catholique. Pour tout savoir du Secours catholique, direction le site rhône.secours-catholique.org.